Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel entretien culturel. Aujourd'hui, on va parler de marché du travail, d'économie et de sa modélisation avec pour invité monsieur Julien Albertini, maître de conférence à l'Université Lyon 2.
Transistor.
La culture domine tout.
Transistor.
Web.
Alors, je ne surprendrai sûrement personne, je pense, en disant que je suis étudiant. Après tout, nous sommes sur Transistor, et en tant qu'étudiant, viendra un jour ou l'autre le moment de se jeter dans le terrible monde professionnel. Ce jour-là, je devrais chercher un poste à occuper, mais il se peut que face au long processus de recherche d'un premier emploi, je décide en attendant de trouver mieux, au moins pour un temps, de travailler dans la boulangerie de mon oncle. Ce dernier me payera sûrement au black, comme on dit. Je serai alors passé dans le secteur de l'informel. Alors, si l'anecdote paraît anodine, inoffensive, dites comme ça, c'est peut-être du fait d'une situation nationale plutôt favorable. En effet, lorsque l'on parle d'économie informelle, c'est rarement pour évoquer des problèmes occidentaux. A l'inverse, la problématique de l'informalité est plus prégnante en Afrique. On ne compte pas le nombre d'articles de presse ou de journaux scientifiques sur le sujet, et les autorités luttent pour rendre formelles les activités qui ne le sont pas, comme au Cameroun où l'on cible les micro-entrepreneurs.
Rendre formelles les activités de nombreux micro-entrepreneurs camerounais, c'est l'objet de la formation sur l'éducation que s'apprête à organiser l'équipe de Yes Cameroun. Sont concernés par cette formation des callboxeurs, des mototaxis, des petits agriculteurs, entre autres.
Et l'objectif principal, c'est pour les faire sortir du secteur informel au secteur formel. Et le but principal, c'est leur donner la formation sur l'éducation financière, sur le montage de business plan et autres technologies comme l'utilisation de mobile money et autres transactions.
Ce sont au total 6000 micro-entrepreneurs, soit 100 dans chacun des 58 départements du pays qui seront sélectionnés pour cette formation. Cette nouvelle initiative est saluée par les petits entrepreneurs qui jusqu'ici n'avaient pas accès à certains services, notamment le e-money.
L'informalité, que l'on pourrait définir comme toutes les activités économiques non déclarées à la comptabilité nationale, est un problème qui persiste au Cameroun, comme dans de nombreux autres pays d'Afrique et d'ailleurs. Monsieur Albertini, vous avez copublié un article « L'informalité au cours du cycle de vie » dans le Journal of Economic Dynamics and Control, et vous avez récemment partagé un article en attente de publication où vous explorez le secteur informel en Argentine et essayez d'en comprendre les ressorts. Alors, la première question serait pourquoi l'économie informelle intéresse-t-il les économistes et quels problèmes elle pose ?
Alors, pour commencer, le secteur informel, s'il y a autant d'articles qui sont publiés et autant de chercheurs qui travaillent dessus, c'est avant tout par son importance. Dans de nombreux pays en développement, le nombre d'employés qui travaillent au black dépasse les 50% et dans certains pays on atteint même des niveaux de 80%. Donc ce qui fait que ça c'est très important dans certains pays et du coup ça a motivé l'intérêt que portent les économistes sur de nombreux aspects de l'informalité. Pourquoi les gens travaillent dans le secteur informel, quelles sont les caractéristiques de ces personnes et comment l'informalité évolue au cours du temps.
Et quels sont les problèmes économiques qu'il y a derrière ? Parce qu'on a entendu un extrait où le Cameroun cherche à lutter contre cette informalité. Quels sont les problèmes derrière ce secteur informel ?
Alors, le secteur informel pose en premier lieu un problème de collecte des ressources pour l'État. Si l'État veut redistribuer, si l'État veut lancer des politiques, il est contraint par le budget dont il dispose. Or, si vous avez une majorité de personnes qui travaillent de façon informelle, donc qui échappent aux régulations, qu'il n'y a pas de cotisation payée, pas de TVA, eh bien, ce budget est fortement réduit. Donc, en fait, le budget repose uniquement sur les personnes qui travaillent de façon formelle et de façon déclarée. Donc, c'est pour ça que pourquoi c'est important ? Eh bien, ça posera une véritable question en termes de politique économique et en termes de redistribution.
Alors, en introduction, j'ai parlé du problème de l'informalité sur le continent africain. Alors, vous, même si vous avez publié un article sur, qu'on mentionnera plus tard, qui prend pour base de données l'Afrique du Sud, Ce dont j'aimerais parler se base sur des données argentines. Et donc, vos recherches, vous les avez effectuées à travers un ensemble de données produites par le Argentina Permanent Household Survey. C'est un recensement mené deux fois par an, couvrant 85% de la population. Comment ce recensement a-t-il permis d'aborder la question du secteur informel ?
Alors, dans ce recensement, dans cette enquête, les personnes interrogées répondent à de nombreuses questions. Alors, sur d'abord des caractéristiques individuelles, l'âge, sexe, et puis sur leurs revenus, sur leurs richesses, et aussi sur quelles occupations ils ont sur le marché du travail. Est-ce qu'ils sont employés ? Est-ce qu'ils sont chômeurs ? Est-ce qu'ils ne cherchent pas d'emploi ? Et pour ceux qui sont employés, on demande aussi est-ce que les personnes payent des cotisations sociales ? Et sur la base de cette question, on peut déterminer si les gens sont travailleurs formels ou non. Parce que tout simplement, ceux qui sont travailleurs formels ont l'obligation de payer des cotisations salariales.
Et une fois ces données recueillies et le proxy trouvé pour essayer d'estimer l'importance du secteur informel en Argentine, vient la question de comment essayer de représenter les interactions entre secteur formel et informel. Et donc dans votre article sur l'informalité au cours du cycle de vie, c'est de construire un modèle pour reproduire au mieux les flots de travailleurs entre le secteur formel et le secteur informel. Et ce modèle s'inspire principalement de celui construit par Zenou dans un article publié en 2008, où il s'intéresse lui aussi à l'aspect du marché du travail du secteur informel, c'est-à-dire principalement le côté recherche de l'emploi. Et il a essayé d'évaluer les différentes politiques ayant pour objectif de réduire le chômage. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce papier et qu'est-ce qui différencie vos recherches de celui-ci ?
Alors sur la base des données, effectivement, on peut extraire un certain nombre d'informations sur les travailleurs informels. Donc on sait que les travailleurs informels, ce sont des personnes qui ont un niveau d'études relativement faible. Alors on trouve aussi des gens qui travaillent de façon informelle et qui ont un niveau d'études élevé, mais majoritairement, c'est plutôt des gens qui ont un faible niveau d'études. On sait également que ce sont des personnes qui sont soit jeunes, soit âgées. Donc ça, c'est aussi un fait très marquant, ce qui fait qu'au cours du cycle de vie, la courbe des taux d'emploi informel décrit une forme de U. C'est-à-dire que vous avez plus de le nombre de personnes employées de façon informelle au début du cycle de vie, c'est-à-dire entre 16 et 25 ans, est beaucoup plus important que le taux d'emploi informel des personnes qui ont entre 40 et 50 ans. Et ça finit par augmenter. Et donc sur la base de ces faits stylisés, dont on s'est rendu compte, et qui sont assez robustes, si on regarde dans d'autres pays, c'est aussi le cas, on s'est dit qu'il fallait construire un modèle ou étendre un modèle existant qui permettre de prendre en compte ces caractéristiques. Et donc, on a regardé quand même la littérature et on avait vu le modèle de Zenou qui est un cadre relativement simple, relativement clair, qui permet de reproduire les taux d'informalité. Mais dans son approche, il n'y avait pas de notion d'éducation ni de notion de cycle de vie. Or, au vu de ces faits stylisés, on s'était dit que les choix des individus à aller dans le secteur formel ou informel, ou les choix de consommation, les choix d'épargne, les choix de chercher sur le marché du travail, dépendent fortement de l'âge et du niveau d'éducation. Donc si on veut avoir une maquette du marché du travail qui soit capable d'expliquer ces faits stylisés, il faut bien sûr prendre en compte ces dimensions.
Donc on va essayer de comprendre avec vous comment on crée, comment vous avez créé ce papier, comment on crée un modèle pour essayer d'étudier les différents faits stylisés que vous venez d'évoquer. Alors pour les auditeurs les plus éloignés de la science économique, j'essaie de résumer les enjeux d'un modèle. Alors on a un ensemble de variables que l'on cherche à expliquer. Ici, vous l'avez mentionné, on essaie de comprendre pourquoi il y a cette courbe U, pourquoi les individus se dirigent un moment vers un secteur formel ou un moment vers un secteur informel. Et on a un ensemble de variables que l'on pense pouvoir expliquer. Alors, vous avez évoqué l'éducation, l'âge. Donc tout l'enjeu de votre papier, au moins l'un des enjeux, si j'ose dire, c'est de relier quantitativement et de déterminer l'impact qu'a l'âge, l'éducation et d'autres facteurs sur le choix de s'orienter vers le secteur informel ou informel pour les individus. Et qu'est-ce qui a motivé, vous avez déjà répondu un peu sur cette question, mais qu'est-ce qui a motivé cet angle d'approche spécifique?
Alors, généralement, on regarde déjà ce qui a été fait sur le sujet, puisque comme vous l'avez mentionné avant, il y a quand même déjà beaucoup d'études, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'informalité et, par exemple, l'accès au crédit. Il y avait aussi des choses sur le capital humain, il y avait aussi des choses sur les heures de travail, enfin le nombre d'heures de travail. Voilà, donc il y avait déjà pas mal de choses. Quand on a regardé les données et qu'on a vu ces faits stylisés, on s'est dit, on a regardé s'il y avait des choses déjà qui étaient écrites dessus. Donc il n'y avait, avait pas énormément de choses sur ces points précis. Donc on s'est dit, bon, bah, c'est parti. On essaye d'avoir déjà d'une part un modèle qui soit capable de répliquer ces faits. Et après, on va faire un exercice de politique économique qui s'apparente à ce qui est fait, mais peut-être qu'en prenant en compte ces spécificités, on peut avoir des résultats différents.
Et donc, vous avez produit un modèle qui peut, comme beaucoup de modèles, qui peut se résumer à un ensemble d'équations, oui, les unes liées aux autres, et qui détermine en fin de compte l'impact sur la variable que l'on cherche à observer. Donc on va essayer de rentrer dans le détail du modèle sans parler trop mathématique. Ouais. Alors pour cela, je vous propose de suivre le parcours d'un individu fictif au cours de son cycle de vie pour essayer de mieux comprendre comment donc fonctionne votre modèle. Donc on va donner un nom à cet individu, on va l'appeler Jules. Donc Jules, au début de son cycle de vie, ne travaille pas encore. Il doit faire des études et tant qu'il en fait, il ne peut pas travailler dans le cadre de votre modèle. Qu'est-ce qui va déterminer le nombre d'études que Jules va faire?
Eh bien, quand Jules va rentrer sur le marché du travail, enfin, ou quand il va, même avant ça, quand il va se poser la question est-ce que je fais des études ou pas, d'un point de vue économique, ce qui peut se demander, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne un emploi maintenant, quitte à ce qu'il ne soit pas très bien payé, ou est-ce que je vais faire des études, donc ça va avoir un certain coût, un coût d'opportunité, et est-ce qu'à la suite de ça, je vais pouvoir avoir un emploi, et est-ce que cet emploi va m'apporter beaucoup? Donc, sachant que si j'ai un emploi en faisant des études, on peut penser que ça va plutôt être soit dans des institutions, soit dans des plus grandes entreprises et donc a priori formelles. Donc un emploi qui sera sujet aux taxes, aura toutes les spécificités, les avantages mais aussi les inconvénients. Et donc c'est au moment de rentrer qu'il peut se poser la question, bah, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Au vu de mes capacités, au vu du temps que j'ai, au vu de différentes contraintes, de est-ce que j'aime faire des études, est-ce que ça me plaît, est-ce que j'aime apprendre des choses. Voilà, donc c'est ce qui va se passer, on va dire, au début du cycle de vie.
C'est-à-dire que dans votre modèle, Jules connaît ses capacités, il connaît aussi le coût de l'école, que ce soit le coût monétaire ou le coût, comme vous avez dit, s'il aime bien apprendre ou si ça l'ennuie. Mmh. Et vous dites que Jules va faire des études jusqu'à ce que, au final, c'est le gain d'une étude supplémentaire pour son salaire soit égal au coût monétaire et au coût de l'effort que ça lui donne. Et est-ce que au vu de toutes les études faites sur l'éducation, je pense à sa sociologie ou même la psychologie, qui tend à montrer que Le niveau d'études ne dépend pas que uniquement des capacités, mais aussi d'autres facteurs, que ce soit le genre ou l'appartenance à une catégorie sociale. Est-ce qu'au fin de compte, de prendre en compte seulement le coût de l'effort et les capacités, c'est un peu réducteur, ou est-ce que c'est une réduction qui est peut-être nécessaire et qui est une assez bonne approximation de comment Jules va fonctionner?
Alors, évidemment, ça reste nécessairement une approximation, hein, dans la mesure où, si on veut chercher à quantifier, on est obligé de faire des approximations. Ce serait difficile de quantifier, de prendre en compte l'ensemble des facteurs, spécifiques à chaque personne. Donc, bien sûr, ça reste une approximation. Maintenant, ce qu'on voit, même dans les études, c'est que... Ça reste de la macro, donc il y a quand même des personnes. Alors, il y a des personnes qui seraient capables de faire des études et qui auront les capacités, mais qui ne vont pas le faire. Et aussi des personnes qui commencent un cycle d'études et puis qui s'aperçoivent qu'elles n'ont pas les capacités au bout d'un certain moment et puis décident d'abandonner. Donc, au final, c'est vrai qu'on a les deux. Ça reste une simplification, mais je pense que au moment où les gens font des études, les gens se posent aussi quand même un certain nombre de questions sur qu'est-ce que ça va rapporter. Et finalement, c'est cette dimension. Alors, d'autres dimensions devraient effectivement être introduites et pour tester si les résultats restent robustes. C'est vrai qu'on est resté assez... on a choisi une modélisation assez standard pour ces choix d'éducation. Si on voulait rajouter une couche ou plusieurs couches sur les dimensions personnelles, sur les caractéristiques personnelles, ça aurait pu être très très compliqué. Mais bon, on pense que ça reste un mécanisme économique qui existe.
Et du coup, une fois Jules ayant déterminé son nombre d'études, il les effectue et vient du coup ce moment de choisir le premier emploi. Et là, il fait face à deux marchés. Mmh. Un marché du coup formel et un marché informel. On va commencer par essayer de décrire les deux marchés pour essayer de mieux comprendre ce qui va motiver son choix. Et donc, quelles sont les caractéristiques du secteur informel, que ce soit pour l'offre du travail ou la rémunération?
Alors, sur l'offre l'offre de travail, quand on regarde les données, on s'aperçoit que les taux de transition, les flux de personnes entre... Le non-emploi, si on considère qu'il y a les chômeurs, ceux qui ne cherchent pas, les étudiants qui arrivent sur le marché du travail. Et l'emploi informel est beaucoup plus important que ces transitions vers l'emploi formel. Et du coup, la personne, c'est beaucoup plus facile pour une personne de trouver un emploi informel. Ces emplois informels payent moins, sont typiquement dans des petites entreprises, voire de moins de 5 salariés. On a aussi beaucoup d'entreprises familiales qui embauchent leurs proches. Et ces entreprises utilisent peu de capital, donc peu de machines, d'équipements sophistiqués, ce qui va avec l'idée que ce sont des entreprises de taille assez faible. Et donc, c'est les personnes... Alors, Jules qui arrive peut assez facilement obtenir un emploi informel, en rentrant au moment après les études, ou chercher un emploi formel dans lequel, effectivement, c'est plus dur. Vous avez des entretiens, vous avez des auditions, vous avez toute la procédure d'embauche qui peut prendre du temps, donc ce qu'on qualifiera de marché du travail qui est plutôt frictionnel, où vous avez des individus qui vont rencontrer des employeurs et ça peut bien se passer donnant lieu à un emploi ou pas.
Ce qui est intéressant, c'est que pour le secteur informel, vous modélisez de la manière dont on modélisait le marché du travail au début de la microéconomie. C'est-à-dire que, pour employer le jargon microéconomique, son salaire sera proportionnel, sera même sa contribution marginale à la production, c'est-à-dire que tout ce qui permet d'amener à l'entreprise, si je résume, sera retransmis en un salaire. Et comme vous l'avez dit, il trouvera un emploi directement. L'offre d'emploi est quasi... en l'occurrence, on appelle ça demande, mais la demande de travail est quasi infinie, ce qui n'est pas le cas du secteur formel. Comme vous avez précisé, ce sera plus compliqué, il y aura des entretiens, des auditions. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qui pousse les entreprises à chercher des travailleurs, et surtout, jusqu'à quand les entreprises cherchent à embaucher dans ce modèle?
Alors, pour le secteur informel, c'est vrai que l'idée est relativement simple. La productivité marginale du travail égale salaire, tout simplement. Ce qui fait que, effectivement, les gens qui rentrent en emploi informel, eh bien, ce qu'ils apportent dans l'entreprise, ça équivaut à peu près à ce qu'ils reçoivent de cette entreprise. Donc, ce qui implique bien sûr que on a un marché du travail qui est concurrentiel dans ce cas-là. Et quand on regarde les données, les types d'emplois dans le secteur informel, alors vous en avez dans la construction, vous en avez des personnes qui vendent aussi à la sauvette, ça reste assez concurrentiel. Il n'y a pas de différence gigantesque en termes de productivité. Ça reste des emplois à faible productivité. Alors que c'est ça qui tranche vraiment avec le secteur formel, c'est qu'on retrouve une plus forte hétérogénéité dans le secteur formel.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant du coup dans ce secteur formel, c'est que le Jules ne sera pas rétribué à sa productivité marginale. C'est-à-dire que vous avez mis en place dans ce modèle un processus de négociation que vous modélisez par un jeu de marchandage à la nage. C'est-à-dire que je simplifie, mais l'employeur aura des intérêts, des exigences, Jules en aura d'autres, et va se mettre en place un processus de négociation qui va déterminer le salaire. Et qu'est-ce qui sera déterminant dans cette négociation?
Eh bien, alors, il y a quand même la productivité, il y a ce qu'apporte la personne, et il y a aussi d'autres facteurs, c'est quel est l'état du marché du travail. Si le marché du travail est très tendu, c'est-à-dire il y a beaucoup d'emplois vacants et peu de chômeurs, donc, c'est plutôt à l'avantage, on va dire, des salariés, c'est que les personnes peuvent facilement trouver un emploi, donc ça peut se jouer dans la négociation, c'est que Jules peut dire, moi je peux trouver un employeur, donc soit vous me payez plus, sinon je m'en vais. Et donc on a ces éléments-là, et on a aussi comme élément, qu'est-ce que je peux avoir si je suis en non-emploi? Qu'est-ce qui me reste en non-emploi? Donc ce qu'on appelle l'outside option, qui est de dire, si vous ne m'apportez pas autant que ce que je peux avoir en utilité en tant que non-employé, je ne vois pas l'intérêt de rester dans cette entreprise.
Ce qui est intéressant, c'est que aussi les taxes jouent en défaveur du secteur formel, puisque étant donné, plus la taxe sera élevée, moins le salaire pourra l'être. Et donc, vous modélisez le salaire à travers ce ratio d'offres et de demandes, une sorte de pouvoir de négociation et ces taxes, mais aussi donc la productivité qui dépend de l'expérience de Jules et de ses années d'éducation. Du coup, pour imaginons si Jules avait fait peu d'études, est-ce que le secteur informel devient une sorte de premier pas nécessaire pour acquérir l'expérience dans ce modèle?
Alors oui, effectivement, il y a plusieurs dimensions. Donc il y a les choix d'éducation. Alors si des personnes ont un faible niveau d'éducation, évidemment le gain à avoir, enfin en tout cas la possibilité d'avoir un emploi formel est déjà beaucoup plus faible. Et bon, on le sait quand on regarde même le marché du travail français, les individus qui ont très peu de qualifications ont des taux d'embauche beaucoup plus faibles. Ce qui fait que
les gains moyens ou la valeur espérée, si on peut dire, du cycle de vie, de ce qu'il y aura dans le futur, sera moins élevé. Donc, en tant que, enfin, si une personne a un faible niveau d'éducation, bah, elle va se tourner vers l'emploi informel, qui va lui rapporter plus, en tout cas, que bah, le non-emploi. Alors, c'est le cas en Argentine et c'est le cas en Afrique du Sud également, où les minima sociaux sont extrêmement faibles. Et ses seules perspectives de carrière sont effectivement via l'emploi et l'accumulation de capital humain dans le secteur informel.
Et pourquoi avoir choisi uniquement de différencier les individus selon leur expérience et leur éducation, parce que vous avez dans notre papier vous montrez certaines évidences de ce recensement fait en Argentine, vous montrez que il y a aussi une grande disparité entre le secteur informel et formel selon le genre. Qu'est-ce qui a motivé le fait de plutôt choisir d'étudier de se focaliser sur l'expérience et l'apprentissage plutôt que sur le genre dans ce modèle?
Alors, c'est vrai que ce qu'on a envie de faire dans les modèles, c'est d'avoir un modèle qui tient compte de l'ensemble des caractéristiques. Alors, c'est pas impossible, mais en fait, ça introduire le genre, par exemple, c'est tout à fait possible, mais ça donne... ça rend les choses beaucoup plus complexes, ce qui fait que si on veut extraire un mécanisme en particulier, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué parce qu'il va y en avoir 2, 5 ou 10 autres qui vont jouer en même temps. Donc en fait, on va pas savoir si ça passe par l'âge ou l'éducation, ou si ça passe par le genre ou d'autres caractéristiques. Donc c'est vrai que quand on a vu cette idée de âge éducation qui allait bien ensemble, parce que les choix d'éducation sont au cours du cycle, enfin sont faits au début du cycle de vie, et on s'était dit que pour pas alourdir le modèle et pas rendre les choses trop complexes pour qu'on puisse avoir un message, et bien on s'était dit qu'on allait se focaliser là-dessus. Maintenant, c'est vrai que si on veut introduire une dimension genre, ce qu'on a fait d'ailleurs dans un autre papier, mais c'était plus sur le cycle, ça donne d'autres messages, ça peut apporter d'autres messages, effectivement.
Et donc, une fois on arrive presque au bout du modèle, on va pas parler des finances de l'État pour pas prendre trop de temps, mais on a donc un ensemble de données, des fois définies de manière qu'on appelle exogène, c'est-à-dire extérieure, on peut rien y faire, je pense aux capacités, des élèves. Il y a certaines valeurs sur lesquelles on peut jouer. On a parlé de la taxe, on a parlé du coût, pas de l'effort, mais du coût monétaire de l'éducation. Et donc ensuite, vous essayez de approcher ces valeurs par différentes stratégies. On va pas pouvoir l'évoquer pour pas que ça devienne trop long, mais ma question, c'est plutôt comment, une fois ces valeurs approchées, on s'assure que notre modèle n'est pas complètement à côté de la réalité, comme on dit, c'est pas quelque chose en fait qui se passe jamais dans la vraie vie.
Alors, sur le choix des variables exogènes et endogènes, effectivement, il y a un choix qui s'opère. Encore pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, si on veut mettre plus de choses endogènes, ça veut dire qu'il va y avoir plus de choix qui sont faits, plus de décisions endogènes qui sont prises par les agents économiques. Ça, c'est intéressant. La question de savoir, c'est est-ce que ce que j'étudie en particulier a un effet sur ce que j'ai considéré initialement comme exogène? Parce que si ça a un effet, dans ce cas-là, c'est pas exogène. Il faut prendre en compte cet effet supplémentaire qui va jouer en retour sur l'effet initial exogène. Maintenant, s'il n'y a pas d'effet ou si c'est quelque chose qui est indépendant, on peut dire les aptitudes des individus à faire des études ne dépendent pas, de la taxe ou des cotisations sociales du pays. Bon, les aptitudes, s'il n'y a pas quelque chose qui modifie les aptitudes dans ce qu'on regarde comme politique économique, alors on peut les considérer comme exogènes. Quand on ne connaît pas certaines valeurs, ce qu'on fait, c'est soit on utilise d'autres études qui ont regardé ces valeurs, qui de certains paramètres, des préférences, etc. On utilise aussi bien de la micro que de la macro pour essayer de déterminer des valeurs qu'on ne connaît pas. Ou on fait ce qu'on a fait également, c'est-à-dire de l'estimation. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher les paramètres qui sont le plus à même de faire en sorte que le modèle est capable de répliquer l'effet stylisé. Donc là, en l'occurrence, c'était les niveaux de salaire par occupation, c'est-à-dire formel, informel, les taux d'emploi, les probabilités d'emploi ou les probabilités de perte d'emploi. Et on va regarder si effectivement ce que donne le modèle est assez cohérent avec ce qu'on observe. Donc on a des mesures différentes, est-ce qu'on est éloigné, est-ce qu'on n'est pas éloigné. Et en fait, c'est comme ça qu'on évalue la capacité du modèle à être suffisant, en tout cas, pour délivrer des messages et être suffisamment bien construit pour qu'on puisse passer à l'étape d'après.
C'est-à-dire que vous rentrez toutes ces valeurs, toutes ces équations et ces valeurs dans un ordinateur, dans un logiciel. Ouais. Vous le faites tourner et vous essayez de voir ce qu'il en sort sur les cycles de vie. Et ensuite, vous essayez de voir si ça colle bien à ce que l'on observe empiriquement avec des mesures. Et là, pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on peut passer à l'étape suivante, c'est de faire des tests pour voir les différents effets. On a parlé de la taxe et du coût de l'éducation. Mmh. Du coup, vous allez essayer de voir quel effet a une réduction d'impôt sur le salaire, quel effet cette réduction d'impôt va avoir sur le secteur informel et sur les recettes de l'État. Et de même manière, vous essayez de voir si quel effet a une subvention de l'éducation de même manière sur le secteur informel et sur les recettes de l'État. Et donc, du coup, quels sont les résultats de ce papier?
Alors, on avait repris un peu les idées qui ont été proposées dans d'autres papiers et aussi au niveau politique, qui était de dire si on veut réduire l'informalité, puisque c'est ce que cherchent les gouvernements, vous l'avez mentionné tout à l'heure, quel outil on a à notre disposition? Et alors il y en a plein, il n'y a pas juste un outil, mais bon, l'un des instruments qui revenait assez régulièrement, c'était de dire on va baisser les taxes, c'est-à-dire on va baisser les cotisations patronales pour inciter les entreprises à se déclarer comme formelles ou embaucher des personnes comme formelles, de sorte à ce que ce coût-là ne soit pas un coût qui détermine de choisir de travailler de façon informelle.
Ce qui apparaît comme logique, puisque même dans votre modèle, on voit que les taxes ont pour conséquence d'augmenter le salaire, ce qui fait baisser le profit et donc, a fortiori, fait baisser le niveau d'emploi demandé par les firmes.
Et donc, du coup, alors évidemment, comme dans toute politique, il y a toujours un coût et un bénéfice. Le coût pour les décideurs politiques, c'est que ça fait moins de rentrées, moins de recettes fiscales. Le gouvernement peut espérer que ces moindres recettes fiscales soient compensées par la hausse de l'emploi. Donc il y aura plus d'emplois qui paieront, d'emplois formels, qui paieront des taxes, certes plus faibles, mais s'il y a plus de monde qui paye ces taxes, peut-être que ça ferait augmenter les recettes de l'État, en plus de faire évidemment augmenter l'emploi formel. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que finalement, les gains en termes d'emploi sont pas suffisants pour couvrir le coût en termes de baisse des recettes, immédiates dues à la taxe qui est plus faible. Donc ça, c'est typiquement un problème en économie qui s'appelle la courbe de l'affaire. Lorsque cette courbe exprime un lien entre les recettes fiscales et le niveau de taxe. Donc, au tout début, si on part d'une taxe qui est zéro, qu'on augmente le niveau de taxe, les recettes fiscales augmentent. Mais au bout d'un moment, si la taxe est trop forte, on se retrouve avec non pas une baisse des recettes fiscales en augmentant la taxe, mais Enfin, on se retrouve, pardon, avec une baisse des recettes fiscales en augmentant la taxe.
Parce que les gens veulent plus, payer des impôts un peu. Voilà. Trop, c'est trop, quoi.
Voilà, exactement. Et donc, ce qu'on trouve dans notre article, c'est que effectivement, suivant où on se situe initialement dans la courbe de l'affaire, eh bien, il s'avère que ça peut être négatif, en tout cas pour les finances publiques. Donc, baisser les taxes réduit l'informalité, ça, c'est tout, ça, ça semble assez, assez robuste, et d'ailleurs dans plusieurs autres études. Mais par contre, ça fait aussi baisser les recettes fiscales. Donc, ça a un coût pour les recettes fiscales de faire ça.
Ce qui n'est pas le cas, par contre, d'une subvention sur l'éducation.
Voilà, alors... c'est effectivement pas le cas à long terme. Ce qu'on trouve, c'est que lorsque vous avez des subventions à l'éducation ou diverses formes d'incitation à faire des études, vous avez mécaniquement une hausse des gens qui ont un niveau d'études un peu plus, enfin, plus élevé, en tout cas. Et ce qui se produit, c'est que ces gens vont plus facilement dans le secteur formel. Donc ça, c'est bien ce qu'on voyait au début des festivités. Ce qui en résulte, c'est que ces gens-là ont des salaires qui sont plus élevés, donc les recettes fiscales augmentent. Et ce que, dans notre étude, on trouve, c'est que bah, ce gain en termes de recettes sur les plus, des salaires plus élevés compense les coûts tels que des subventions à l'éducation.
Donc à long terme, il vaut mieux subventionner, si l'on veut réduire le secteur informel sans trop creuser les recettes de l'État, votre résultat majeur, c'est qu'il vaut mieux subventionner l'éducation que baisser les taxes sur le salaire.
Alors ça peut prendre du temps, c'est-à-dire que évidemment, à court terme, il va y avoir des coûts sans qu'il y ait forcément de recettes. Donc là, ce qu'on regarde, nous, c'est ce qu'il y a à long terme. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est des subventions à l'éducation, ça peut avoir un coût, ça peut avoir un coût jusqu'à ce que les personnes rentrent effectivement dans le marché du travail. Mais à long terme, ce sera bénéfique.
Et donc, c'est intéressant. Donc on voit que tous les intérêts d'étudier les différents facteurs qui influent sur le marché du travail, comme l'éducation... comme l'expérience, on a mentionné qu'on aurait pu faire le genre. Et vous avez aussi fait dans un autre working paper qui est disponible sur votre site, étudier l'impact de la santé sur la trajectoire des individus sur le marché du travail. Est-ce que vous pouvez brièvement expliquer comment la santé et le marché du travail... Le niveau de santé et le marché du travail interagissent entre eux, et notamment vis-à-vis de la consommation et du bien-être des individus.
Alors, tout ça dans une dimension informelle, enfin du travail informel. Donc, c'est une étude sur l'Afrique du Sud. On a eu des données qui renseignent de l'état de santé des gens et en même temps de leur statut sur le marché du travail. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a un lien effectivement entre statut sur le marché du travail et santé ? Et ce qu'on a trouvé dans les données, c'est que les travailleurs informels avaient plus de chances de tomber malade, de tomber en mauvaise santé. Alors, il y a des accidents, il y a des problèmes diabétiques, malnutrition, exposition à des poussières, à des particules, etc. Et ça fait que ceux qui tombent malades, ont plus de chances de perdre leur emploi informel. Et les personnes qui sont sans emploi et qui sont en mauvaise santé ont beaucoup plus de difficultés à retrouver un emploi. Tout ça, c'est ce qu'on observe dans les données. Ce qui fait qu'en fait, il y a un lien assez étroit entre la santé des individus et leur possibilité de rester ou de trouver un emploi.
Il y a donc des caractéristiques clés chez les individus comme l'âge, la santé ou le niveau d'études à prendre en compte dans la mesure des effets des politiques publiques. Chacun est différent, et c'est ce que l'on a peut-être trop répété à Betta Davis.
Didn't like a foxtrot. Now instead. wish you spit it snuff and boogie tray. I'm on drain. Spit on. They say I'm different cause I eat shit, man. So I can't help it. I was born and raised on a fast rider every morning. Have to slap the hogs and maybe get off humping the jolly.
Betta Davis répète les raisons que l'on invoquait en 1974 pour mettre la population noire à l'écart. Gardons la différence mais changeons complètement la réalité derrière, car ce qui a longtemps été reproché à l'économie est d'au contraire construire des modèles avec un seul agent censé être représentatif. Mais comment une économie composée d'un agent uniforme pourrait être une représentation pas trop réductrice ? Comment aborder alors les problèmes d'inégalité et de redistribution avec un seul agent ? Alors pour pallier entre autres à ces problèmes, cela fait une quinzaine d'années que des économistes s'essayent à de nouveaux types de modèles avec des agents hétérogènes, comprendre des agents non uniformes, comme vous, monsieur Albertini, et comme Greg Kaplan, que l'on entend ici lors d'une interview donnée auprès de CB On Air, où il venait présenter quelques avantages des modèles ANC, modèles néo-keynésiens à agents hétérogènes, et les changements que cela implique sur les questions de fiscalité et de budget.
What we can't get away from is the fact that monetary authorities' actions affect the government budget constraint, even if it's as even if it's as small things like changing the interest rate that they pay on debt, that's going to affect the house the fiscal authorities' budget constraint. Now, the question is, does something have to give in the budget constraint, and if so, when and how? Now, the what's true in classic representative agent economies is those particular decisions about how the fiscal authority changes its spending or taxing decisions in response to changes induced by monetary policy doesn't matter for the aggregate economy, because how, at some point, whether it's in the future or today, households are indifferent about that. Once you introduce incomplete markets and heterogeneity in the way that we have in these Hank models, those decisions become crucially important.
Right.
Not just in terms of the timing of is the government going to react by increasing taxes today or in the future, because those changes do affect spending, but also there's now a decision to be made about which households in the economy are going to pay for these changes. And to the extent that different households, which we've already discussed, have different propensities to spend, there's becomes this additional additional margin on which changes in the fiscal authority's spending or taxing decisions will affect aggregate demand and hence aggregate activity in the short run.
On entendait Greg Kaplan, professeur en économie à l'université de Chicago, peut-être l'un des plus grands défenseurs de ces modèles à agents hétérogènes. Pour lui, ne pas prendre en compte les inégalités au sein d'une population revient souvent à mésestimer les effets d'une politique fiscale. Alors dans l'article dont on parle depuis le début de cet entretien, l'informalité au cours du cycle de vie, les questions de fiscalité, de budget et de dépenses publiques, pour vous, il était naturel d'incorporer des agents hétérogènes ?
Alors oui, pour plusieurs raisons. C'est vrai que... Il y a eu ce nouvel essor qui est apparu sur le choix des agents hétérogènes, la modélisation des agents hétérogènes. Hétérogènes, alors il n'y a pas qu'une dimension, mais celle qui semble, celle dont Greg Kaplan discute, c'est hétérogène dans la richesse. Les individus font face à des chocs, c'est-à-dire des individus font face à des chocs financiers, ils peuvent perdre du revenu, des revenus de capitaux, ils peuvent aussi perdre leur emploi, donc faire face à des chocs sur le marché du travail. Les individus peuvent faire également face à des chocs de santé, tomber en mauvaise santé, travailler et donc soit être sans emploi ou travailler moins. Et ça affecte leur richesse. Et ça affecte en tout cas leur choix de consommation et d'épargne. Parce que tout simplement les individus qui subissent des chocs assez forts vont avoir un niveau de consommation qui va être différent de ceux qui n'en subissent pas. Et les modèles agents hétérogènes visent à expliquer cet ensemble de choses, c'est-à-dire que viennent rompre avec le paradigme de l'agent représentatif pour tenter d'expliquer pourquoi enfin, pourquoi les individus ont différents choix ? Ben, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes trajectoires sur le marché du travail. Donc nous, dans notre étude, ben, au vu de la, des spécificités, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir des emplois formels qui payent plus que des emplois informels, des gens qui peuvent subir des chocs de santé qui sont différents suivant s'ils sont en emploi formel ou informel, et en plus qui sont différents au cours du cycle de vie, les, évidemment la possibilité de tomber en mauvaise santé survient plus élevée avec l'âge, eh bien ça a des effets assez conséquents sur, bah, sur ce que font les gens en termes de consommation et d'épargne. Donc cette dimension était pour nous, nous semblait assez intéressante.
Donc le fait d'incorporer de l'hétérogénéité dans votre modèle permet de prendre en compte beaucoup plus d'impact que si on avait un seul agent représentatif. Mais néanmoins, nous sommes en économie. Il faut dire qu'il est difficile de trouver des concepts qui sont peu critiqués. Peut-être que c'est tant mieux. Mais enfin, l'une des critiques que l'on fait souvent au modèle à agent hétérogène est la mauvaise compréhension des mécanismes de cause à effet. C'est une sorte de critique de boîte noire. Je disais que tout à l'heure, vous avez mis les équations dans un ordinateur et sorti des résultats. Mais parfois, on a un peu l'impression que ce dernier fait des calculs et on ne peut pas vraiment être sûr de ce qui sont les causes de ce résultat. Ce qui correspond finalement peut-être un peu ironiquement assez bien au phénomène naturel, il faut dire. Mais enfin, comment vous évitez cet écueil et qu'est-ce que vous pensez de cette critique de la boîte noire ?
Alors, cette critique est assez juste au sens où quand on voit un modèle qui a une certaine dimension, qui a de l'hétérogénéité entre autres, on ne peut pas à la lecture juste du modèle se dire je comprends tous les mécanismes, toutes les élasticités, tous les mécanismes de propagation des chocs, ça devient de plus en plus dur. C'est impossible de juste en voyant le modèle de déterminer ça. Ce qui fait que ça paraît une boîte noire. Et c'est vrai, quand on regarde un modèle, bon ben oui, il y a des équations, il y a des variables, il y en a qui sont exogènes, endogènes. Bon, on sait pas très bien qu'est-ce qui est lié à quoi. Et donc c'est après le travail, c'est effectivement de montrer quelles sont les implications de ce modèle. Donc généralement, ce qui est fait pour essayer de décortiquer le modèle, pour essayer de bien comprendre ce qui se passe, il y a beaucoup d'exercices de simulation qui vont venir à essayer de changer des choses marginalement pour voir dans quel sens ça bouge, changer des hypothèses, faire des exercices de robustesse. Et c'est avec tout ce travail qu'on est capable d'expliquer au mieux un modèle. Donc, évidemment, plus le modèle est compliqué et plus le modèle est lourd, plus ce travail sera compliqué. Donc, et généralement, même si on va vers des modèles un peu plus sophistiqués avec des agents hétérogènes, il faut quand même garder une certaine dimension pour qu'on soit capable de comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est via ces exercices qu'on permet d'expliquer les relations de cause à effet, par quel canaux de transmission passent des chocs, etc.
On voit bien qu'il y a du coup un arbitrage entre une exigence de réalisme et un besoin de simplicité, peut-être de lisibilité du modèle. C'est un arbitrage que je pense que vous avez fait aussi dans quelles variables on détermine de manière endogène, c'est-à-dire quelles variables sont déterminées dans le modèle, quelles variables sont déterminées en dehors de modèle. Et comment vous réalisez cet arbitrage ? Comment vous posez la question de, là, l'éducation, on le rentre, ou là, l'éducation, on ne rentre pas dans le modèle, on l'explique dans le modèle ou on ne l'explique pas ?
Alors, c'est vrai que c'est toujours très dur, cet arbitrage. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on part de la structure la plus simple, possible, et on ajoute les ingrédients qu'on juge nécessaires, c'est-à-dire ceux qui nous intéressent. On ne va pas, par exemple, dans ce modèle sur l'Afrique du Sud, pour évaluer le coût de l'informalité, on n'allait pas rajouter de politique monétaire, on n'allait pas rajouter, je sais pas, de, de secteur bancaire, même si peut-être que ça pourrait être lié, si ce n'est pas suffisamment proche pour pouvoir influencer les décisions à un niveau, on va dire, peut-être plutôt micro, dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt à rajouter une dimension pour rendre le modèle plus compliqué. Donc, globalement, on s'arrête à partir du moment où on juge que, ok, peut-être qu'en rajoutant ça, ça l'influencerait, mais ce n'est pas ce qui est principal, ce n'est pas ce qui est le plus essentiel.
Tout au cours du modèle, on a parlé de cycle de vie sans vraiment définir ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est un cycle de vie et qu'est-ce que du coup il permet de modéliser?
Alors, le cycle de vie, c'est dû à Modigliani, aussi loin qu'on peut remonter. Alors, il y a certainement d'autres gens, peut-être avant lui, qui ont déjà parlé, mais l'économiste qui revient fréquemment pour décrire ce cycle de vie, c'est Modigliani. Et c'est tout simplement l'idée selon laquelle, à chaque âge, les individus ne vont pas effectuer les mêmes choix économiques, que ce soit, alors, pour les plus simples, en termes de consommation et d'épargne, ou en termes de choix de formation, ou en termes d'achat de biens immobiliers. Donc, les choix sont différents à chaque âge. Et dans l'hypothèse de base, qui était sur consommation et épargne, c'est toujours valable jusqu'à encore aujourd'hui. On s'aperçoit que les individus les plus jeunes consomment à peu près l'intégralité de leurs revenus jusqu'à 20-25 ans. Alors c'est évidemment, il y a quand même de l'hétérogénéité derrière, mais globalement, la fraction des revenus qui est épargnée jusqu'à 25 ans, elle est relativement faible. Les individus ensuite, jusqu'à à peu près, presque jusqu'à la retraite, donc ont des revenus un peu plus élevés en moyenne et tendent à épargner. Et à partir de la retraite, on observe un comportement de désépargne, c'est-à-dire que les individus consomment plus qu'ils n'épargnent, et donc leur richesse tend à diminuer à partir de 60-65 ans, ça va dépendre des pays.
Et pour vous, il est du coup naturel de considérer, d'aborder le modèle avec des cycles de vie du fait de cette courbe U, où il aurait été possible de faire...
Alors, il est possible de... Si on ne s'intéresse pas spécialement à la richesse et aux choix de consommation et d'épargne, dans ce cas-là, est-ce qu'il est nécessaire de faire un modèle avec des cycles de vie et ses choix? Je ne pense pas. La question, c'est plutôt sur le genre, en moyenne, en regardant les individus en emploi, peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'aller vers cette dimension cycle de vie. Cette dimension cycle de vie apporte un raffinement et aussi des questions par âge. On sait qui épargne, qui désépargne en fonction de l'âge. Donc s'il y a des politiques économiques qui sont basées, par exemple, sur de la redistribution, on a ces informations et donc effectivement, il va falloir faire un modèle de cycle de vie.
Ce qui est intéressant, c'est que votre modèle, vous faites beaucoup de références pour justifier certains choix, à des références à des anciens modèles macro, que ce soit récents comme Zeno ou beaucoup plus vieux comme Modigliani, même si vous faites directement référence à Modigliani, vous utilisez le concept de cycle de vie. Et au fin de compte, on observe très peu de références, comme c'est souvent le cas dans les papiers de macroéconomie, très peu de références à des trouvailles de d'autres branches de l'économie, que ce soit l'économie expérimentale ou même d'autres branches des sciences sociales. Je pense peut-être à la psychologie, à la sociologie, l'économie tend à incorporer des résultats des autres branches de recherche dans son travail. Il est vrai que la macroéconomie, c'est souvent un reproche qu'on lui fait, incorpore peu ses résultats. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique et pourquoi ne pas avoir fait plus de références à certains résultats d'économie expérimentale ou d'autres sciences sociales?
Alors, c'est toujours une question difficile. C'est que peut-être c'est même encore plus vrai en macro, parce que en macro c'est assez difficile d'introduire
des comportements vraiment spécifiques sociologiques. Enfin, ça se fait. Hein, j'ai pas d'idée en tête parce que c'est vrai que moi personnellement, j'ai pas travaillé dessus. Mais c'est vrai que c'est vrai que ça reste assez éloigné. Alors de mon point de vue, il y en a qui diront que non, mais ça reste assez éloigné des questions macro-quantitatives. Des aspects sociologiques ou des aspects psychologiques. Même si on le sait, les deux interagissent. Il y a quand même des personnes qui travaillent en macro et qui font un peu d'économie comportementale. Il y en a très peu, mais j'en connais une personne ici au GATT, dans le labo. Et donc ça peut quand même s'imbriquer, mais c'est assez difficile de le voir sur l'ensemble des questions, sur des questions très macro standard, marché du travail ou politique monétaire. Peut-être que ça se prête plus à des questions en finance comportementale, mais c'est vrai, il y a les deux. Enfin, je pense que sur certains aspects, les deux disciplines ont quelque chose à dire et ça peut être complémentaire. Généralement, pour imbriquer ces deux disciplines, on va plutôt vers des gros projets de recherche dans lesquels on a une partie macro, une partie socio, une partie psycho, et vous avez cette imbrication, même si elle n'est pas direct au sein d'un même papier, vous avez ce genre de projet de recherche qui essaye de faire le lien entre les différentes parties. Mais c'est vrai que d'où notre point de vue, on n'utilise pas ça. Alors bon, déjà on n'a pas spécialement les compétences pour le faire, et puis moi personnellement ça m'intéresse pas trop, même si je sais que c'est assez porteur et que beaucoup de gens arrivent à publier et à faire des excellents articles là-dessus. Mais bon, voilà, c'est aussi un choix de la socio n'a rien à dire là-dessus, c'est juste que il y a déjà suffisamment de choses à mobiliser. Et qu'après, c'est aussi un risque, c'est de s'aventurer sur un terrain qu'on ne connaît pas spécialement. Et on va nous dire, et on peut nous, ceux qui sont référés ou dans les conférences, nous dire, mais comment vous pouvez imbriquer les deux, qu'est-ce que vous pouvez dire sur tel ou tel problème. Et ça risque d'être assez difficile si on n'est pas expert du domaine, quoi.
Donc vous avez choisi donc dans la macroéconomie, vous vous intéressez donc principalement au marché du travail.
Ouais.
Et d'où vient cet intérêt personnel pour ce sujet de recherche?
J'ai eu des cours intéressants là-dessus. Ça a certainement joué l'enseignement. Il y a aussi une dimension assez politique économique qui est assez forte. Parce que sur le marché du travail, vous avez un nombre de politiques économiques considérables. Si vous regardez, que ce soit en termes de régulation, la protection de l'emploi, si vous avez sur le salaire minimum, si vous avez sur les types de contrats, sur le chômage partiel, on en discute maintenant. Donc, vous avez tellement de politiques économiques différentes et possibles que en fait, ça devient très intéressant de se dire... Il n'y a pas une politique économique, c'est comme ça ou comme ça. Il y a vraiment un choix très varié de politique économique. Et ce qui fait que ça peut motiver à se dire qu'est-ce qui se passe si on change, tel schéma de taxe, qu'est-ce qui se passe si on augmente ou on diminue le salaire minimum. Et du coup, il y a un foison de possibilités, et ce qui m'a aussi motivé. Ouais.
C'est quoi les prochaines possibilités que vous voulez tester? C'est quoi vos prochains projets de recherche?
Alors là, on travaille un peu plus sur les taxes. On travaille donc avec Anthony Thériault et Arthur Poirier sur le Earned Income Tax Credit, qui est une baisse de taxes pour les personnes qui ont des faibles revenus. Alors ça se passe aux États-Unis et voilà, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe, quel est l'effet de ce schéma de taxes sur les différentes variables. Alors ça va être sur les choix d'éducation en particulier, mais ça peut être aussi sur les choix de consommation, les choix d'épargne.
Merci beaucoup, Julien Albertini, d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Et vous savez, on est à Transistor, donc sur la radio de la web radio de l'ENS de Lyon. Est-ce que vous aurez un conseil ou un mot à donner à nos aspirants économistes ou même à nos aspirants chercheurs?
Alors, faut beaucoup lire. Je pense qu'il faut beaucoup lire d'articles. C'est une étape. À la fois enrichissante, des fois c'est difficile, des fois on a envie d'écrire, on a envie de faire des régressions, de faire des modèles, mais c'est vrai que c'est important de lire énormément au début. Donc c'est vrai que c'est assez passif, donc il ne faut pas se décourager. Faut faire ce qu'on a envie de faire, en fait, je pense, parce que c'est quand même c'est un travail qui est... qui est assez particulier, la recherche. On est sur un sujet pendant un certain temps et on a envie de travailler sur ce sujet. Donc si on fait un sujet qui nous intéresse pas, je pense que c'est vraiment pas la bonne option. Donc faire ce qu'on a envie de faire, et faut pas se décourager, parce que c'est un travail très long, et des fois on peut se décourager en se disant bon bah est-ce que ça sert à quelque chose. Est-ce que je vais arriver à publier? Est-ce que voilà? Donc il faut pas lâcher, en fait.
De la passion et de la patience, du coup, pour nos apprentis chercheurs. Merci beaucoup, Julien Albertini, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à Nicolas d'avoir fait la régie durant tout le long de cet entretien. Et à bientôt sur Transistor pour un autre entretien culturel ou peut-être autre chose.
Merci. Grandma didn't like a foxtrot. Now instead she spit it snuff and boogie tram on drag. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlin. So I can't help it, I was born and raised on them. That's right, or every morning have to slop the hogs and they be getting off humping the jolly hooker. Moonshine, the Baby King and Jimmy Ray, rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Thornton. Talk about it, talk about it. I'm talking about Lightning Hopkins. Shine.